saint qui dit d'avoir eu des révélations divines, ils sont dans ce processus-là?
Ben, ça dépend, parce que s'ils en font une saisie, ils ne sont pas dans le processus de la nature de l'esprit. C'est des expériences, et ces expériences, il faut en avoir la reconnaissance de la nature ultime, l'union de clarté vacuité, et après, ça fera féliciter vacuité. Après, il faut leur demander ce qu'ils entendent par divin, révélation. Dans le jargon tantrique, c'est de l'hallucination, pour éviter justement une saisie d'une altérité, une divinité qui viendrait à moi, etc. On est perdu, quoi. C'est de l'ordre de l'hallucination, mais cette hallucination, c'est déjà le plus proche effet de l'union de clarté-vacuité. Donc on nie pas la vision, l'aspect visionnaire. Je peux parler de mes expériences visionnaires, mais je ne dis pas révéler, moi je préfère dire inspirer, quoi. C'est souvent, le terme change tout, hein. Tu dis à quelqu'un, j'ai écrit un poème inspiré, ah c'est bien, j'étais révélé, un poème m'a été révélé, ah c'est fort, ça change tout. Hein. Et je crois que ça vient d'en haut, quoi. Oui. Quelque chose d'ailleurs qu'en l'esprit. Si tu es inspiré, ça veut dire que tu te mets des bonnes conditions qui donnent cette magie aussi, éventuellement artistique, d'inspiration. C'est-à-dire, c'est pas une expression égotique, voilà, etc. Beaucoup de gens en fait, font de l'art, c'est une expression de sentiment, c'est beau, je vais le peindre. Ça a raison d'être, bien sûr. Quand on est dans une démarche visionnaire, on se met en condition de. Pas d'exprimer ses sentiments, mais en condition de. Dans la contemplation, libre des mécanismes, de élaboration mentale, je crée quelque chose. Quelque chose à écrire, créer. C'est des termes, clarté-vacuité, félicité-vacuité, même compassion-vacuité. Le propre du sahaja, c'est joindre à la vacuité toutes les autres qualités. On le retrouve aussi dans Kol Shen Tong. Tong, c'est vide, Shen, d'altérité. Vide. Et tout ce qui est l'autre, clarté, félicité, fait partie de l'ultime. J'aime tout.
Donc l'ultime et le relatif fonctionnent ensemble.
Ils sont aussi co-émergents. Le relatif, c'est que sur la base d'une nature clarté-vacuité, cela prend des aspects. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais c'est ce moment même de la Bible où Dieu voit la lumière. Il voit l'aspect. Et il sait en vertu de quoi? En vertu de clarté vacuité. Que Dieu est lui-même, qu'il est défini. S'il faut dépasser l'idée de Dieu, quelqu'un ou quelque chose même. Dans notre enseignement, c'est aspect. L'aspect est l'expression de l'apparence qui est l'union de clarté vacuité. L'aspect est l'expression. S'aspecte. Et ça s'aspecte en conformité de l'interdépendance et elle s'aspecte en vertu de la nature clarté-vacuité. Donc il y a différentes catégories d'apparence. Ce mot apparence, c'est le terme Nang qui est associé aussi à émergence révélante. Voilà. C'est le mot aussi, c'est un des termes pour désigner Amitabha. Apparence infinie sans limite. C'est la loi de l'apparence, elle est sans limite. Vous vous souvenez, par exemple, on prend dans la catégorie apparence, il faudrait même dire apparentialité, une loi d'apparentialité. On prend dans la catégorie qui va devenir des formes, des couleurs, par exemple. Et bien, dans la loi d'apparentialité, c'est ce miracle qui a une onde qui est déterminée par une certaine chaleur, on va dire. Et donc, ça donne les différentes couleurs. On détermine les couleurs par leur chaleur. Le rouge est plus chaud que le bleu. Voilà. Ce qui fait que nous, à l'œil humain, il faut rester dans l'œil humain. L'apparentialité que je nomme, que je range dans l'apparentialité chromatique. C'est une union de clarté-vacuité apparence, donc apparentialité, union de quartier d'acuité. C'est la seule façon d'être appréhensible par un esprit qui est lui-même union de quartier d'acuité. Et reconnaissance est vide aussi. Et sur cette base-là, il y a l'aspect. Donc dans la partialité chromatique, il y a l'aspect. Et l'aspect, lui, est conforme à l'interdépendance du lieu, de toute la relativité. L'union de quartier vacuité, c'est de l'ordre de l'ultime, et l'union de l'aspect, c'est de l'ordre de la relativité, et toutes les lois sont respectées. Les lois de la partialité et les lois de la phénoménalité, si je veux dire, la relativité. D'accord ? Donc, la partialité chromatique, dans un moment donné, une circonstance donnée, etc., va donner un rouge. Par exemple, pour un tapis. Vous voyez, rouge, c'est pas l'apparence. Ça devient un aspect de rouge. Un aspect, même pas de rouge, d'une gamme toute potentiellement possible, un nuancier Pantôme, en imprimerie, on a des nuanciers, ou en peinture, vous voyez, le catalogue. Parce que dans l'apparentialité, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. C'est ça l'idée de Amitabha. L'apparentialité sans infini, il n'y a pas de frontière, c'est un continuum aussi. Mais à un moment, sous l'effet d'un instant, contact, c'est un aspect que tu fais, l'expérience. Tu fais l'expérience d'un aspect, nam. Et ce nam fait nam chez science. On a traduit par conscience. Et ce moment-là de Namché, c'est à la suite d'un contact. Le contact, c'est un facteur mental qui traduit l'apparentialité en âme. On dirait en phénomène, en aspect. Et le Ché, qui est de nature, donc science, c'est une faculté qu'est l'esprit, et de nature, donc clarté vacuité. Et si on n'y touche rien, on n'est pas dans la soif d'ignorance, ben ce moment de nam, contact du nam et du ché, c'est félicité, vide. Vide, ce n'est pas l'effet, pas une expérience en tant qu'effet. Ah, j'ai l'expérience d'une félicité. C'est l'union de félicité et vacuité. C'est l'ultime, c'est ça les expériences de réalisation de l'éveil. De la nature de l'esprit et de la nature de la conscience, réaliser la nature des apparences aspectées. Si on comprend ça, on comprend des Watchen. On est dans les aspects infinis d'apparentialité, comme dans l'Éden. Tout nous est loisible. Toute la gamme d'apparentialité nous est loisible. Et on a l'aspect souhaité, si j'ose dire, qui exauce l'instant. C'est pas souhaité, on exauce des souhaits dans le sens intentionnel. On exauce l'instant en vertu de la loi. Ça nous est loisible. Et il nous est loisir de jouir. Dewa, félicité. C'est traduit par félicité. On comprend aussi le Vairocana, ce qu'est la famille Bouddha, l'éveil. C'est Vairocana, ça veut dire Nampar Nangze. Ce qui fait que l'apparence s'aspecte, eh ben, c'est l'union de quartier vacuité. Vous vous souvenez, hein, on a étudié Vairocana. Donc tout ça, c'est pas pour nous embrouiller, hein, même si c'est très subtil. Oui, c'est très subtil, mais ça stimule, voilà, etc. Mais c'est pas aussi compliqué que ça. Il faut une petite gymnastique. Mais après, effectivement, il faut nous mettre une condition mentale qui va permettre que c'est beaucoup plus facile. Parce que si on s'en tient juste à réfléchir et comprendre avec la saisie, il y aura quelque chose comme compris pour me prouver que j'ai compris, eh bien non, on n'en aura jamais fin. On aura toujours à lire des livres, à écouter des enseignements. Mais à un moment, je sais de quoi ça retourne, de quelle nature ça retourne. C'est éventuellement ça nous dépasse. Il faut se mettre dans les conditions où ça ne nous dépasse plus. Et les conditions, c'est samatha vipassana. C'est-à-dire arrêter de chercher à comprendre quelque chose, que ça, et que ce quelque chose viendrait pour confirmer qu'on a compris, ça c'est de l'ordre, effectivement, ça a raison d'être, c'est de l'ordre de la réflexion, il faut de la réflexion, du raisonnement, ainsi de suite, on en a besoin pour se faire une certitude intellectuelle. Mais au niveau de la réalisation, ce n'est pas les bonnes conditions. C'est une bonne condition pour éviter les erreurs dans la méditation, mais pour être là où il n'y a rien à trouver, et que c'est là même, être en l'union de clarté vacuité, c'est autre chose. Donc Samatha, c'est trouver son poste d'observation où on est arrivé à se taire. C'est, Samatha, c'est le nom d'une vertu, d'une aptitude, c'est un facteur mental, qui est une aptitude de conscience, où la conscience, la connaissance, le fait de savoir, c'est tu. D'accord ? C'est la seule manière de savoir au-delà des imputations, voilà, etc. Et on est observateur, abstentionniste de tout commentaire, hein, de toujours quelque chose à redire, de prouver, ah oui, ça, donc j'ai trouvé, ou quelque chose est venu à moi, etc. Donc Samatha, hein, c'est une aptitude à la conscience qu'il faut arriver à obtenir, ou ne serait-ce que les débuts, où on est suffisamment dans une concentration, où on s'est libéré des phénomènes de distraction. Et au minimum, s'il y a distraction, hop, on a ce qu'on appelle un rappel immédiat, sans mot d'ordre. Bien sûr. Si c'est un mot d'ordre, etc., c'est qu'on est seulement dans le cheminement du placement et on essaye d'avoir un placement continu. Vous connaissez le premier degré de Samatha. Mais on se retrouve là, n'en dites rien. Dès le départ de Samatha, j'en dis rien. Et automatiquement, on n'introduit plus l'espoir-crainte. C'est juste ça, il faut taire l'espoir-crainte, le bavard. L'espoir-crainte, c'est procédurier, c'est la soif qui tente toujours d'être là, en quelque sorte. Samatha. Il faut vraiment une détermination et une capacité d'agir avec ce qu'on appelle le rappel. Et ce rappel, c'est un réflexe de l'esprit. Il ne faut pas, même si on s'entend dire « Ah oui, j'ai oublié de », ben faites-le, et puis gommez le bavard, et trouvez ces muscles, les formations mentales, c'est comme des muscles, une aptitude. Et ensuite, il y aura Vipassana. Des fois, Vipassana vient avant, et puis ça m'attend après, des fois ça se combine. Ces aptitudes peuvent être convergentes. Savoir se taire et ce savoir et discernement, c'est Vipassana. Le discernement, c'est voir ce qui nous semblait paradoxal et comprendre que c'est justement parce que c'est vide de clarté, c'est vide que cela apparaît. Alors que quand on est dans bourru, en quelque sorte, c'est inverse. Si je vois, c'est que ça existe. D'accord ? Tu vois qu'un phénomène, enfin, l'effet de quelque chose, et tu le saisis, c'est tout. Et donc le discernement, c'est arriver vraiment à... C'est un phénomène de révélation, ça donne le sentiment de eureka. D'accord ? Mais ça ne vient pas d'ailleurs, ça ne vient pas non plus de quelque chose. La règle, c'est toujours samatha vipassana. Même si on fait les tantras, c'est les mêmes choses. Même si on n'utilise pas ces mots-là, c'est le même mécanisme à faire. Les mêmes efforts, etc. Donc l'esprit est une nature d'union, clarté, vacuité. Et en vertu de cela, il y a un respect des lois de l'interdépendance, des lois de l'interdépendance de la phénoménologie de l'esprit, qu'on appelle les facteurs mentaux. S'il n'y a plus d'ignorance, il y aura toujours ces facteurs mentaux. Simplement, il y aura la gnose, et ces facteurs mentaux fonctionneront en toute intelligence, et on fera comme Dieu, que cela soit. Donc il y a bien une différence aussi entre esprit et conscience, c'est des mots différents. La conscience est de la nature spirituelle, et de nature spirituelle. Mais conscience, c'est un moment approprié, où il y a science, con avec un aspect, namché. Et ce namché, certaines personnes, je ne sais pas, ils ont des soucis avec ça, et ils font une traduction un peu péjorative. Conscience dualiste, conscience machin. Non, un Bouddha, il n'aura plus de dualité éventuellement. Encore, je ne sais même pas ce que ça veut dire, cette dualité. Il n'aura pas de dualité, d'accord, mais il aura bien un objet. Il sait ce qu'il entend, il est là pour savoir ce qu'il entend. Enfin voilà, il se sait entendre, il se sait savoir, il se sait penser, il se sait sentir, il se sait goûter, et ainsi de suite. Ce namché, c'est vraiment la base tout ordinaire. Tout ordinaire, si on ne saisit pas, s'il n'y a pas la soif, s'il n'y a pas l'ignorance, elle n'est pas perturbée. N'étant pas perturbée, la conscience de cette conscience, donc le namché est lui-même objet d'un autre moment de conscience qu'on appelle la conscience affectée d'émotion. On la traduit comme ça. S'il y a saisie, effectivement, le namché, on a une saisie, il ne fonctionne pas en toute intelligence, en toute sagesse. On est affecté d'un son qu'on entend, sous prétexte qu'on ne voulait pas l'entendre, déjà, ou qu'on aimerait l'entendre encore plus longtemps. Oui. Et on fait donc une psyché, hein, la conscience affectée d'émotion, la science qui introduit une intelligence A. Vous voyez ? C'est le moment de conscience, science, on enlève le con, qui introduit l'intelligence à ou au fait d'entendre, voilà, etc. Vous voyez ?
Du coup, moi, je dirais, c'est ça, le dualiste. C'est, alors qu'avant, c'est une chose, finalement.
Quoi ?
S'il n'y a pas d'émotion, si la conscience n'a pas de facteur perturbateur,
oui.
C'est une chose. Les aspects et la conscience
sont co-émergents.
Voilà, c'est co-émergent, oui. Donc c'est une seule chose. Et après, par contre, t'en fais autre chose que toi. Donc tu nous dis comment prouver que tu existes.
Attends. Oui, tu as raison. Mais attends. Quand on parle de conscience affectée d'émotion, c'est parce qu'il y a l'ignorance, la soif, encore, la saisie, donc il y a les facteurs perturbateurs qui introduisent cette aptitude de cette conscience qu'on appelle affectée d'émotion. Mais tu enlèves les conditions qui affectent d'émotion cette conscience, d'accord ? Et on garde l'intelligence. Parce que cette conscience affectée d'émotion introduit un fonctionnement d'intelligence à l'expérience sensorielle de Namché. Et ça, qu'on soit éveillé ou pas, c'est un facteur mental, c'est une conscience. Cette conscience qu'on appelle, quand on est dans le samsara, bien sûr, conscience affectée d'émotion, de klesha, introduit une intelligence, mais qui est flouée, qui a un grain de sable. Et on enlève le grain de sable, c'est l'ignorance, la soif, la saisie, et les intelligences, les kleshas sont des intelligences. Sans grain de sable, ça devient ce qu'on appelle les intelligences. Les cinq kleshas deviennent les cinq intelligences qu'on associe aux cinq familles, des cinq derniers bouddhas. Oui. C'est pas cette conscience qui va s'arrêter. Non, c'est qu'elle sera plus affectée.
Oui,
voilà.
C'est dualiste. Quand c'est des kleshas, enfin, quand ça fonctionne de façon parasitée, quoi. Enfin, mais, sinon, en fait, c'est pas dualiste, quoi. Enfin, même si on dit namché.
Namché, c'est pas dualiste, mais c'est traduit par des fois conscience dualiste. Le namché, il est ce qu'il est. C'est une faculté. Et on peut y mettre une saisie d'une altérité, d'une subjectivité, donc ce qu'on dit dualiste. Mais il y a toujours un duel. C'est-à-dire, il y a toujours un objet et un sujet. Il suffit de ne pas y mettre de saisie. Mais il y a bien quand même une fonction d'objet et de sujet. Mais on ne les enferme pas dans une réalité propre. Une altérité pour l'objet, une identité pour le sujet. Des fois, dans certaines traductions de chant, on parle de dualité non-duel, non-dualiste. Mais il y a bien une dialectique. La dialectique, c'est quand ça marche très bien. Ça a déjà co-émergence. L'objet et le sujet sont co-émergents, mais ils ont, de fait, leur fonction propre. On désigne l'objet, non pas quelque chose, mais la fonction. Cette conscience qu'on présente comme affectée de klesha, si elle est libérée hein, de l'ignorance, la saisie et la soif, elle garde son aptitude, moins le grain de sable, le virus, toujours, il faut bien comprendre ça, moins le voile. Et les kleshas deviennent des intelligences. Elles sont déjà des intelligences. Hein. Quand on parle de kleshas, on traduit par émotion, vous vous souvenez. Mais dans kleshas, il y a l'aspect d'abord perception, donc intelligérer, c'est-à-dire on se met en rapport à, d'accord ? Et ensuite, réaction au rapport à. C'est kleshas, hein, mieux de mots. Alors, quand on est dans l'ignorance, ces kleshas sont des kleshas. C'est-à-dire qu'ils perturbent l'impédité, la lucidité de cette intelligence, et donc la réaction elle-même sera souillée, etc. C'est ce qu'on appelle un karma souillé. Donc cette septième conscience affectée peut devenir donc une conscience non affectée, libre, qui est en respect de l'union de clarté-vacuité, en respect de l'interdépendance, la phénoménologie des choses, voilà, etc., comme tout à l'heure. Et donc, au lieu d'avoir un klesha, on a des intelligences. L'intelligence du klesha désir attachement, désir est une intelligence illusionnée par l'ignorance, la soif, mais en ce désir-là, il y a une intelligence qu'on appelle le discernement. T'enlèves le bug, le virus hein, de ce mode de perception qu'on appelle désir, ou ce mode d'intelligence, t'enlèves le bug et tu as le discernement. Et ensuite, dans désir attachement, l'attachement est l'émotion, au sens strict du terme, c'est-à-dire une réaction qui sort de moi, un émoi. Et cet émoi est un affect. L'affect, ça veut dire que le désir, parce qu'il est l'illusion, le désir donne le sentiment d'un manque à combler, et donc tu as une impulsion vers un objet de désir que tu prends pour elle, tu prends réellement qu'il y a un objet de désir. C'est le principe de l'affect, qui part sur l'idée d'un manque, qui va vers, mais dans une impulsion, qui va vers un objet, et c'est ça l'illusion dualiste là.
C'est un désir de choses saines, par exemple, un désir de paix, par exemple.
C'est pas l'objet qui fait l'intelligence. C'est pas l'objet qui fait l'intelligence du discernement. C'est de comprendre l'absence de réalité propre, il n'y a pas de paix en soi, déjà. Que c'est une condition qui peut être appelée paix. Une condition mentale qui peut être appelée paix. D'accord ? Mais si dès lors tu dis, il y a quelque chose comme étant la paix, ça y est, c'est foutu, ton intelligence est foutue. Nous sommes bien à l'idée aussi, hein, Spinoza qui dit, on parle de beauté, mais il n'y a pas quelque chose de beau en soi. La beauté, c'est le moment d'une attitude qui est une condition mentale, mais c'est pas de voir tout beau. Il n'y a pas quelque chose comme tant beau, et il n'y a pas de beauté en soi, etc. Et bien là, il discerne. S'il discerne, le désir n'est plus un désir, un affect, partant d'un manque, en recherche de beauté, parce que tu vas chercher un objet,